Troisième temps de notre série dédiée au voyage politique après celui du grand Charles, Charles de Gaulle, hier en Amérique latine. Nous suivons ce matin le jeune roi Charles IX qui, sur les conseils de sa mère Catherine de Médicis, entame un long périple à la découverte de son royaume. Le voyage de Charles IX dans son royaume dure 2 ans et demi. Le roi se déplace avec sa famille, avec sa cour, parcourt près de 4000 kilomètres. Ils sont plusieurs milliers de personnes à le suivre et il va ainsi reforger ou tenter de reforger l'unité de son pays juste après la première guerre de religion. Il est évidemment accompagné de la reine mère, Catherine de Médicis, qui escompte lui faire rencontrer le souverain d'Espagne, qui ne viendra pas à Bayonne comme elle l'attendait, de Troyes à Lyon, puis à Marseille, de Toulouse à Bordeaux, puis à Châteaubriand, d'Angers à Moulins. Le jeune souverain rencontre ses sujets, touche les écrouelles, accorde des privilèges aux cités qu'il traverse à travers la lecture de textes de cette époque qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui avec Séverine Yattard qui a préparé toute cette semaine avec nous. Nous recevons deux historiens spécialistes de cette période. Jérémy Foa, il est maître de conférence en histoire moderne à l'université d'Aix-Marseille. Il sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Aix. Et Mathieu Gélard, qui est l'auteur d'une thèse qui s'intitule « Une reine épistolaire, lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis » qui vient juste d'être publiée dans la collection classique Garnier.
Quel plus grand plaisir reçoit une province que de voir quelquefois la face de son prince, son port, son œil humain, ses propos gracieux. Quelle heure pourrait plus grand être donné des cieux.
Voilà, Nathalie Canu, vous avez lu le premier texte de cette émission d'archives que vous avez préparée. Séverine Yattard, bonjour.
Bonjour.
Et qui seront commentés, ces textes d'archives, par nos deux invités. Jérémy Foa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Aix, donc, et les studios de Radio France à Aix. Et Mathieu Gélard, vous êtes avec nous depuis Paris, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, c'est un quatrain, un beau quatrain de Jean Passera, donc au moment où le roi entre à Troyes. Nous sommes le 23 mars 1564, il vient à peine de débuter son périple. Un périple qui s'est décidé quelques semaines plus tôt à Fontainebleau, dans une grande réflexion entre Catherine de Médicis et son fils qui vient d'accéder au trône, puisqu'auparavant elle était régente du royaume, Mathieu Gélard.
Voilà, donc en fait, elle accède à la régence sans avoir le titre de régente d'ailleurs à aucun moment en décembre 1560 quand le frère aîné de Charles IX décède et Charles IX justement est déclaré majeur à l'été 1563, donc 6 mois, grosso modo, avant le début du tour qui part de Paris, effectivement, en janvier 1564.
Alors, Jérémy Foa, la première des guerres de religion s'est déjà déclenchée, elle s'est interrompue, mais c'est une des raisons peut-être du départ du roi, de sa mère et de sa cour pour parcourir ce royaume qu'il ne connaît pas, en l'occurrence, Jérémy Foa.
Oui, bien sûr, c'est même la raison décisive. Le contexte, il est double. Hein, c'est un lendemain de guerre civile. Les haines sont au plus haut dans le royaume. Et l'autre contexte, bien, c'est un roi faible. C'est un roi jeune. Il a 14 ans. Et la rencontre d'une guerre civile avec un pouvoir faible, c'est explosif. Et l'idée vient, à Catherine de Médicis notamment, qu'il faut montrer le roi. Montrer le roi pour montrer sa grandeur, montrer la puissance de la cour. Et puis aussi, bien sûr, c'est une pédagogie pour le roi, c'est lui apprendre son royaume.
Et Jérémy Foy, je crois que c'est Jean Boutier, là, dans son ouvrage sur justement le grand tour de Charles IX, qui était un peu l'œuvre pionnière hein, sur le sujet, parle aussi de comment évaluer justement cette fragilité du pouvoir. Il y a des pamphlets, des lettres, comment voilà, Catherine de Médicis prend conscience, outre le fait évidemment qu'il y a cet édit de pacification qui a été signé, cette première guerre de religion, le fait que le roi est jeune, certes, mais comment se manifestent finalement ces volontés de remettre en question peut-être le pouvoir royal, ou en tous les cas de le déstabiliser. Je sais pas, Jérémy Foa ou Mathieu Gélard.
Alors, moi, je veux bien vous répondre. On la voit à tous les niveaux. Au niveau le plus humble, on a des discours, des mauvaises paroles qui circulent et qui remontent à la cour. Par exemple, Montluc, qui est un envoyé du roi, croise des calvinistes, des protestants, qui parlent du petit Rayo de merde. Donc, ce petit roi de merde à propos de Charles IX. Donc, au plus humble niveau, un manque de respect. Mais au plus haut niveau, aussi, vous avez parlé de cet édit de pacification, l'édit d'Amboise. Les parlements, Aix, par exemple, Toulouse, ont refusé de l'enregistrer. Donc, au plus haut niveau, il y a une résistance à la politique conciliante ou à la politique de pacification voulue par Charles IX et par sa mère. Donc, on le sent, si vous voulez, aussi bien au niveau des pamphlets, aussi bien au niveau du peuple qu'au niveau des institutions, des gouverneurs, de la noblesse, il y a un grand mouvement de contestation de l'autorité royale et de la politique pacificatrice voulue par Catherine de Médicis.
Oui, mais Mathieu Gélard, il pourrait y avoir d'autres manières de pacifier ou de faire connaître ce jeune roi. Là, en l'occurrence, lorsque ce grand équipage part sur les routes, personne ne sait combien de temps ça va durer, en l'occurrence Mathieu Gélard. Au départ, il ne part que pour quelques mois. Il va quitter Paris, il va quitter Fontainebleau pour quelques mois. Puis en fait, ça va durer 2 ans et demi, Mathieu Gélard.
Oui, on part dans la plus grande inconnue. On ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas forcément très bien qui on va rencontrer. Il y a des projets de rencontres sur la frontière avec l'empereur ou au moins avec le roi des Romains. Donc on attend, on patiente, ça ne se fait pas. Donc voilà, il y a une grosse inconnue. L'objectif initial, le seul qui est clairement défini au départ, c'est Bar-le-Duc, puisque la cour part pour le baptême du petit-fils de Catherine de Médicis. Petit-fils de Catherine de Médicis, qui est donc l'héritier de la couronne ducale de Lorraine. Et voilà, ça c'est l'objectif. On espère que ça va être un moyen de rencontrer le roi des Romains. Mais voilà, et après...
Et en même temps, Jérémy Foua, vous qui avez étudié les commissaires, justement, qui vont être envoyés, même, qui vont précéder ce voyage, il y a donc bien une sorte de préparation. Enfin, on teste un petit peu le territoire, quand même, pour savoir peut-être où s'arrêter, combien de temps, quelles sont les villes qui seraient plutôt contestataires.
Jérémy Foua. Effectivement, on a souvent étudié le Tour de France sans étudier les commissaires. Et c'est vrai que un an auparavant, dès le mois d'août 1563, Catherine de Médicis et son chancelier Michel de l'Hospital ont envoyé dans toutes les provinces du royaume, deux par deux, des juristes qu'on a appelés des commissaires des élites de pacification. Et ces hommes ont voyagé, alors pas à l'échelle du royaume, mais à l'échelle d'une province, par exemple en Bretagne, et ont toutes les semaines envoyé des lettres à Catherine de Médicis, à Charles IX, pour leur faire part de l'état des provinces, pour tenter aussi de résoudre les conflits nés de la première guerre de religion. Mmh. Et ces commissaires, qui circulent jusqu'en 1565 dans le royaume, effectivement préparent l'arrivée du roi, informent le roi, et on peut dire, même si on n'a pas de lettres directes en ce sens, qu'ils donnent des informations très concrètes sur les villes dans lesquelles les tensions, notamment les tensions confessionnelles, sont si grandes qu'il faut absolument que le roi vienne, que le roi se montre et en personne tente de résoudre les conflits.
Alors voilà, ce grand équipage s'ébranle depuis Fontainebleau, après des fêtes de Fontainebleau qui sont organisées par Ronsard. Tout à l'heure, Mathieu Gélard nous disait qu'il partait donc pour Bar-le-Duc, mais ils ne partent pas seuls. Plusieurs milliers de personnes accompagnent le roi, sa mère, le chancelier Michel de l'Hôpital que vous avez cité à l'instant, Jérémy Foy, le connétable Anne de Montmorency, les cardinaux de Bourbon, de Guise, le prince de Condé, le jeune Henri de Navarre qui deviendra Henri IV, qui va suivre tout ce périple en France. Et c'est très intéressant peut-être pour pouvoir comprendre aussi la connaissance intime de la France que va avoir Henri de Navarre au moment de la suite de ces guerres de religion. Tout le monde part ensemble et l'ambassadeur de Venise, comme des autres ambassadeurs, l'ambassadeur d'Espagne, d'Angleterre, de Toscane, suit également ce grand tour de Charles IX. Il le raconte un peu plus tard, en 1577, un texte qui nous est lu par Nathalie Canouy.
Les princes, les ducs, les barons, les prélats qui suivent la cour, les uns par devoir, les autres par ambition, sont si nombreux qu'à chaque voyage, le cortège est de 8000 chevaux et d'autant de personnes. Pour trouver ces logements, il faut qu'un prince se tienne à 3 ou 4 lieues de distance de l'autre. Les villes même ne peuvent pas toujours loger la cour tout entière, qui s'arrange dans les villages environnants. Quand même il y aurait assez de place pour la cour, il n'y en aurait pas assez pour le grand nombre de chevaux et d'autres bêtes de somme.
Un texte de Jérôme Lippomano, ambassadeur de Venise à la cour de France, qui raconte donc plus tard, en 1577, ce grand tour de France de Charles IX qui est au cœur de notre émission de ce jour avec Séverine Yatard.
Ça dit évidemment que la cour se déplace en nombre hein, et que c'est aussi un mode de gouvernement, Mathieu Gélard ou Jérémy Foy. Tout le monde doit se déplacer avec la reine et son fils.
Voilà, donc c'est pas la famille royale, la cour, c'est le gouvernement hein, qui se déplace, ça veut dire la chancellerie, avec un bagage où il y a des archives, avec les secrétaires, avec les ambassadeurs.
Les conseillers, les princes.
Les princes, etc. Donc voilà, il y a tout le gouvernement qui s'en va avec le roi. Alors là, il y a une spécificité, puisque c'est pas le seul voyage de Catherine de Médicis, mais elle a entrepris un autre très grand voyage, moins long, hein, mais dans les années 1578-79, où là, pour le coup, elle part seule. Alors, elle est accompagnée de princes du sang, de ducs, etc. Mais elle part seule avec un ou deux conseillers secrétaires du roi. Et le roi, lui, reste à Paris. Hein. Donc, c'est le successeur de Charles IX, c'est Henri III. Donc là, il y a dissociation. Tout le gouvernement ne suit pas. C'est ce qui fait, là, quand même, l'extraordinaire du grand tour de 64-66.
Oui, et un grand tour qui, Jérémy Foy, nécessite une logistique. On n'appelle pas ça encore la logistique à l'époque, mais on comprend bien par ce texte de Jérôme Lippomano qu'il faut accueillir ces 8000 chevaux, accueillir cette cour très nombreuse. Et donc, on va préparer cette arrivée dans les villes. Les villes prennent en charge beaucoup quand arrive le roi. Elles sont très honorées de cette venue du roi, mais ça leur coûte cher aussi.
Alors les villes, ça leur coûte très cher. Elles empruntent. On a des témoignages nombreux. À Mâcon, par exemple, on sait que 18 ans après le passage du roi, la ville est encore en train de rembourser l'emprunt qu'elle a contracté pour accueillir. Donc c'est interminable. À Toulouse aussi, la ville s'endette. Tout repose sur les villes. Le roi ne paye rien. Il y a effectivement une logistique qui est à la charge des villes, qui sont, vous l'avez dit, honorées de l'arrivée du roi, puis qui espèrent surtout que le roi renouvellera leurs privilèges, les foires, les marchés, tous les privilèges qu'on peut avoir, ou alors
voir qu'il en créera d'ailleurs.
N'ira pas.
Voir qu'il créera aussi des privilèges, en l'occurrence.
Exactement, voilà, qu'il peut tout à fait leur donner des privilèges, ou même, elles espèrent ne pas être punies. On a un certain nombre de villes, notamment les villes protestantes, comme Montauban, qui voient leurs fortifications rasées avec l'arrivée de Charles IX et du Tour de France. Donc effectivement, faire un bon accueil au roi, c'est espérer, pour le moins, que les privilèges seront confirmés, voire que de nouveaux privilèges seront accordés.
Mmh. Alors, on a un texte dont on ne sait pas très bien, d'ailleurs, Mathieu Gélard, de quand il date de Catherine de Médicis, que va nous lire maintenant Nathalie Canoui. Un texte important parce que c'est une sorte de manuel de gouvernement, comme on en faisait beaucoup à la Renaissance.
Voilà, donc c'est un texte qui est daté par les éditeurs des lettres de Catherine de Médicis de 1563, mais dont on n'est pas sûr qu'il date effectivement du règne de Charles IX, et dont on n'est pas sûr qu'il soit adressé à Charles IX ou à Henri III.
Un extrait de ce texte, lu par Nathalie Canoui.
En toutes les principales villes de votre royaume, vous y gagnez 3 ou 4 des principaux bourgeois marchands qui aient bon crédit parmi leurs concitoyens, et que sous main, sans que le reste ne s'en aperçoive, ni puisse dire que vous rompiez leurs privilèges, les favorisant tellement par bienfaits ou autres moyens, que les ayez si bien gagnés qu'ils ne se fassent ni disent au corps de ville, ni par les maisons particulières que n'en soyez avertis. Et que quand ils viendront à faire leurs élections pour leurs magistrats particuliers, selon leurs privilèges, que ceux-ci par leurs amis et pratiques fassent toujours faire ce qui seront à vous de tout, qui sera cause que jamais ville n'aura autre volonté que la vôtre, et n'aurait point de peine à vous y faire obéir.
Bon, un texte important parce qu'il nous montre aussi que le gouvernement du pays n'échappe pas à ce que pense Catherine de Médicis, qui évidemment a lu les bons auteurs dans ce domaine-là, Mathieu Gélard.
Oui, là, on voit à travers cet exemple relatif au corps de ville, quelque chose qui peut être appliqué plus largement à l'ensemble des provinces, hein, et des tentatives de la part du gouvernement royal de se forger des appuis au plus loin de là où il se trouve. Donc, c'est quelque chose qui a été étudié par d'autres auteurs sur la noblesse, qu'on a appelée la noblesse seconde, hein, donc de faire monter un petit peu des catégories de noblesse provinciale pour se les attacher par des faveurs, comme le collier de l'ordre de Saint-Michel, ou des pensions.
On voit bien que là, le gouvernement, malgré cette itinérance, ce nomadisme qui pourrait paraître un peu justement déliter ce pouvoir, au contraire, c'est un pouvoir, le pôle central, c'est ce gouvernement qui se déplace en nombre justement dans toutes les villes pour refaire finalement sa cour, hein, d'une certaine manière.
Oui, alors exactement. Là, on a un modèle qui est un modèle exceptionnel, pour nous assez incroyable, et en même temps qui, pour l'époque, n'est pas non plus quelque chose d'inconnu. Au contraire, hein, on est dans une période de ralentissement du nomadisme traditionnel des rois de France. Hein, par rapport à François Ier, le nomadisme des derniers Valois est vraiment réduit. Et en même temps, c'est un modèle de gouvernement qui est connu. Hein, Charles Quint a été dans une itinérance de son gouvernement pendant toute sa vie. Donc c'est quelque chose qui est assez...
D'autant, et c'est ce que vous avez étudié, Mathieu Gélard, que Catherine de Médicis gouverne aussi par lettres, hein, avec l'épistolaire. Elle n'arrête pas d'écrire, enfin, et les autres rois avant elle également. Il y a aussi cette forme de gouvernement-là qui permet justement de quadriller à la fois cette temporalité et le territoire.
Voilà, exactement. Hein, c'est essayer de se rendre présent.
Combien a-t-on gardé de lettres de Catherine de Médicis pendant la période où elle exerce les pouvoirs?
Là, les lettres publiées, c'est environ 6 000 lettres. Là. Actuellement, on a à peu près 6 000 lettres à disposition.
Et par ces lettres, comme le disait Séverine Yatard, elle gouverne aussi. C'est une façon de gouverner, de marquer par les mots. C'est le pouvoir des mots sur les âmes qu'elle entend conquérir pour garder le pouvoir ou pour elle ou pour ses fils.
Voilà, donc c'est un outil extrêmement important pour elle, puisqu'évidemment ce ne sont pas les seules lettres qui partent de la cour. Au contraire, hein, la lettre classique, c'est la lettre du roi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est systématiquement, ou en tous les cas assez régulièrement, doublée par une lettre de Catherine de Médicis qui marque son existence politique par l'envoi de lettres et puis par la réception. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, on lui répond. Hein. C'est pas simplement elle qui écrit comme ça sans jamais obtenir de réponse dans une espèce d'illégitimité. Bien au contraire, hein. On lui répond. Les ambassadeurs lui répondent, les gouverneurs lui répondent, les corps de ville lui répondent ou lui écrivent directement, etc. Donc, ce qui est important, c'est cette double correspondance. Hein. Le fait qu'il y a des lettres du roi, des lettres au roi, il y a des lettres de Catherine de Médicis et des lettres à Catherine de Médicis.
Alors, la lettre de Catherine de Médicis à Bernardin Bochetel, évêque de Rennes, qui est aussi ambassadeur auprès de l'empereur. Elle date du 9 novembre 1563, donc avant le début de ce grand tour, mais elle dit beaucoup justement sur la façon dont Catherine de Médicis entend gouverner, par l'intermédiaire de ses fils, et en l'occurrence de Charles IX, le pays. Nathalie Canouille.
Monsieur de Rennes, depuis mon autre lettre écrite, j'ai avisé que je ne dois rien sceller au roi des Romains, mon beau-frère, touchant cette entrevue, laquelle j'ai véritablement désirée et désire. Mais vous l'assurerez que mon intention et le but où je tends n'est autre que de voir, sinon, qui sommes les plus grands et puissants princes chrétiens, étant assemblés ensemble, pourront convenir et nous accorder d'un bon moyen, autre que celui des armes, pour la pacification et le repos de la chrétienté. De quoi ? Sachant que sa volonté et la mienne sont du tout conformes en cela, j'espère qu'il pourra réussir le fruit que lui et moi désirons. Encore que le pape et le roi d'Espagne se rendent difficiles, nous pourrions lors les travailler à les y persuader. Et s'il se trouvait quelque empêchement à la dite entrevue, j'espère que sur les occasions qui s'en vont offrir entre lui et nous, telles que vous le savez, j'aurai ce bien de le pouvoir voir, et l'empereur aussi. Ce que je désire d'autant plus que lors nous pourrions lui et moi avisé du moyen nécessaire pour la dite pacification et pour la modération de l'aigreur, qui est aujourd'hui parmi nos peuples pour les différences de la religion. Car chacun est assez éclairci, ce me semble, du peu d'espérance que l'on doit avoir de l'issue de ce concile. »
lettre de Catherine de Médicis à Bernard d'Imbochtel, donc évêque de Rennes et ambassadeur auprès de l'empereur. Elle date du 9 novembre 1563. Et Mathieu Gélard, elle dit qu'il faut la pacification et le repos de la chrétienté et la modération de l'aigreur. On comprend ce que cela veut dire après la fin de la première guerre de religion, en l'occurrence, Mathieu Gélard.
Oui, alors là, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui doivent être rappelés. Et déjà, le fait qu'on est dans les ultimes semaines du Concile de Trente et que Catherine de Médicis n'en espère rien, hein, comme elle le dit. Elle a échoué à faire entendre la voix française au Concile de Trente. Les ambassadeurs ont officiellement quitté la réunion du Concile. Hein. L'ambassadeur Duferrier s'est réfugié à Venise. Voilà, il y a un contexte sur le Concile de Trente. Et Catherine de Médicis joue la carte de la proximité des situations impériales, hein, en Allemagne et française, essaye de dire à l'empereur que finalement ils sont sur une même ligne, ce qui est loin d'être faux d'ailleurs. Hein. Effectivement, l'empereur a fait des réclamations au Concile de Trente qui n'ont pas toujours été entendues, un peu, disons, contre le pape et le roi d'Espagne. Et il y a une double idée chez Catherine de Médicis, c'est-à-dire de faire une entrevue générale des principaux princes de la chrétienté, pour reprendre son expression, donc le pape, le roi d'Espagne, l'empereur et Charles IX, donc à travers Charles IX elle-même, donc pour essayer de trouver une solution politique et non plus religieuse, comme le fait le Concile à l'embrasement confessionnel en Europe. Et puis, c'est un aspect qui apparaît moins clairement dans le texte, peut-être au début, mais il y a aussi une visée matrimoniale, hein, c'est-à-dire il s'agit de négocier des mariages.
Eh oui, parce qu'il faut marier le jeune roi, aussi des princesses qui sont autour. Alors, si on revient à ce contexte qui est le cœur de notre émission d'aujourd'hui, à savoir le grand tour de France qu'organise Catherine de Médicis pour son jeune souverain qui est Charles IX entre 1564 et 1566. On a dit tout à l'heure, Jérémy Foix, qu'ils partaient vers Bar-le-Duc, ils vont descendre progressivement vers Lyon et au bout du
D'ailleurs,
compte...
le trajet est un peu frontalier.
Oui, c'est ça.
Je peux vous expliquer aussi. Et c'est l'occasion de rencontrer justement.
On attend, on espère. L'empereur, on fait une croix assez vite dessus au cours de l'année 1563. Hein, mais par contre, on espère que le roi des Romains, qui est donc l'héritier hein, désigné de l'Empire, viendra.
Et c'est aussi le but du voyage.
Hein, Jérémy Foix.
Oui. Oui, il s'agit bien effectivement de marquer les frontières aussi. C'est une technique de marquage de territoire dans un contexte de faiblesse. Je voulais revenir un peu sur cette lettre aussi. Vous avez parlé du pouvoir des mots. Et je pense que c'est décisif pour comprendre la politique de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, dès qu'elle est au pouvoir, à partir des années 1560, entend faire une politique de douceur. Et c'est très important pour elle. On ne peut pas forcer les âmes par les armes et par la violence. Et donc, elle se dit qu'à l'image du Christ, il s'agit de convaincre par la parole. Et toutes ces lettres, le but du Tour de France, c'est de convaincre par la douceur.
Oui, c'est très étrange parce qu'évidemment, ça n'est pas, mais ça on le sait, que la légende noire qu'on a conservée de Catherine de Médicis, qui serait une intrigante.
Là, on est vraiment à l'opposé. Je pense qu'effectivement, c'est important de le dire. La légende noire de Catherine de Médicis, d'un point de vue historiographique et historique, est fausse. Et il faut le dire, Catherine de Médicis a consacré toute son énergie entre 1559 et 1589. À la paix. Catherine de Médicis est une reine de paix.
Et d'ailleurs, juste pour ajouter sur cette question, Charles IX va aussi dans ses rencontres et dans les villes, il y va pour pardonner. Et vous dites très bien dans l'article que vous avez écrit ensemble, le voyage est bifure du passé. Et donc, c'est le roi qui va pardonner les uns qui ont assassiné un tel, des prêtres catholiques ou des catholiques, des huguenots, et qui vont demander... voilà la grâce du roi et le pardon du roi Mathieu Gélard.
Oui, tout à fait. Là, c'est quelque chose que Jérémy a vraiment étudié, donc je vais peut-être le laisser répondre.
Jérémy Foix.
Oui, effectivement, ce qui a été étudié récemment par Michel Nassier, c'est les lettres de rémission. On s'est aperçu que chaque fois que le roi rentrait dans une ville, on lui présentait des demandes de pardon, c'est-à-dire des criminels. On a trouvé 288 lettres de rémission écrites à l'occasion du Tour de France, c'est-à-dire des criminels qui, pendant les guerres civiles, ont commis des crimes, ont assassiné un protestant ou un catholique ou leur voisin, et qui demandent au roi rémission, c'est-à-dire une grâce, hein, quelque chose, une exception par rapport au droit. Et le roi, dans la plupart des cas, il répond favorablement.
Ah oui.
Donc, bifure du passé en ce sens qu'effectivement, le roi utilise son pouvoir de grâce pour oublier. Alors, il oublie par les lettres de rémission, mais on a aussi tout un certain nombre de gestes qui sont faits à l'occasion du grand tour. Par exemple, des bûchers, hein, des grands feux dans lesquels on va jeter des livres séditieux, des livres qui rappelaient le passé ou des livres qui appelaient à la violence ou à la haine entre Français. Ces feux vont servir à sceller l'unité entre protestants et catholiques.
Et on va aussi, évidemment, ça c'est plus traditionnel, mettre en place tout un système de roi, pour le roi, de guérison, puisque le roi, évidemment, traditionnellement guérit les écrouelles, et dans beaucoup d'endroits où il va se rendre, ce Charles IX, eh bien, il va guérir les écrouelles pour pouvoir montrer encore la personnalité sacrée qu'il incarne, Jérémy Foy.
Oui, alors ça c'est assez amusant. On sait par exemple qu'il y a de très nombreux Espagnols qui franchissent la frontière lorsque le roi est à Bayonne pour venir se faire toucher par le roi de France, parce que le roi d'Espagne est très puissant, le roi d'Espagne est très catholique, mais le roi d'Espagne n'est pas guérisseur. Celui qui est guérisseur, qui est le roi thaumaturge, c'est le roi de France. Alors évidemment pour le roi d'Espagne, c'est une petite humiliation. En plus, il faut ajouter un point, c'est que pour le roi de France, c'est aussi très clairement se positionner du côté catholique. C'est dire, oui, je mène une politique de pacification, oui, je veux qu'on cesse la répression à l'encontre des protestants, mais je suis catholique, oui. Mais je suis sacré, mais je crois au miracle. Donc il y a ici un message très fort à l'intention des protestants. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas un souverain protestant, je suis un souverain miraculeux qui guérit.
Et puisque vous évoquez l'Espagne, voici une lettre de Don Frances de Alava, ambassadeur d'Espagne auprès de la cour de France, qui suit justement ce grand tour, une lettre qu'il écrit à Philippe II, le souverain d'Espagne. Et nous sommes là le 4 juillet 1565.
Les adieux de la reine d'Espagne et de la reine mère et du roi ont été des plus navrants. Les larmes coulèrent à flots. Le connétable est entré dans la chambre du roi. Il lui a dit qu'il ne fallait pas pleurer, parce que les étrangers et les sujets pourraient s'en apercevoir, et qu'un roi ne doit jamais pleurer. Le roi a remercié le connétable, mais il n'a pu retenir ses larmes. J'ai rappelé à la reine mère les grands dangers qu'elle et le roi et son fils auront à courir, parce que les protestants sont persuadés qu'il a été convenu en cette entrevue de les châtier, et qu'il fallait se tenir sur ses gardes, puisque les bons catholiques qui les entouraient étaient déjà partis. La reine d'Espagne lui a fait les mêmes recommandations. La reine mère a répondu qu'elle avait de braves gens pour la garder, mais qu'elle avait l'intention d'augmenter leur nombre et que déjà elle avait donné l'ordre au comte de Charny de lever le bon nombre de chevaux.
Mathieu Gélard, lettre de Don Frances de Alava, ambassadeur d'Espagne auprès de Philippe II, n'intervient pas à n'importe quel moment, puisque elle date du juillet 1565, elle évoque l'entrevue de Bayonne, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on comptait rencontrer pendant ce long périple le roi des Romains, mais on compte aussi, à un moment ou à un autre, rencontrer le roi d'Espagne à Bayonne, ce qui n'arrivera pas. On lui envoie un ambassadeur à Charles IX et pas le roi d'Espagne, et néanmoins cette étape de Bayonne est une étape importante, puisque on a longtemps considéré en tous les cas qu'il y avait dans ce moment bayonnais, pourrait-on dire, il y avait les prémices de ce qui allait intervenir plus tard, à savoir la Saint-Barthélemy. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, Mathieu Gélard?
Alors effectivement, hein, donc ça c'est insister sur l'aspect international du Tour de France. Hein. Il y a une dimension de pacification intérieure et puis il y a une dimension de dialogue avec les souverains étrangers. Alors qui globalement relève plutôt de l'échec, puisque le roi des Romains ne vient pas, le pape ne vient pas, l'entrevue générale ne se fait pas. Donc de l'entrevue générale, on passe à l'hypothèse d'entrevue particulière, mais Philippe II non plus ne vient pas. Alors il n'envoie pas tout à fait un ambassadeur, il envoie un des plus grands d'Espagne, un des deux grands ministres espagnols, le duc d'Albe, et puis il envoie son épouse, qui se trouve être la fille de Catherine de Médicis, mmh. Et la sœur de Charles IX, donc cette reine d'Espagne, Élisabeth de Valois, qui est... évidemment un personnage important, et on s'aperçoit en réalité que finalement ce qui réussit dans cet aspect international, cette volonté de rencontre internationale, ça réussit par la famille, hein. Donc c'est c'est le duc et la duchesse de Lorraine. La duchesse de Lorraine, c'est une des filles de Catherine de Médicis, Claude. C'est le duc et la duchesse de Savoie. La duchesse de Savoie, c'est la tante de Charles IX, hein, la belle-sœur de Catherine de Médicis. C'est la reine d'Espagne, une fille de Catherine de Médicis. Hein. C'est la dimension extrêmement importante des relations familiales dans les relations internationales, la société des princes.
Jérémy Foy.
Oui, sur
Bayonne.
Sur Bayonne, effectivement, surtout la propagande protestante, on dit que à Bayonne, dans ses rencontres avec l'Espagne, dans ses rencontres avec le duc d'Albe, c'était déjà préparé le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, c'est faux. Hein, la Saint-Barthélemy, on le sait aujourd'hui, n'a pas été préméditée. Participe de la construction de la légende noire de Catherine de Médicis, qui depuis 1565, voire avant, préparait le massacre. Non, hein, à Bayonne, effectivement, une rencontre internationale qui échoue, des rencontres familiales très émouvantes.
Il veut son accord, le duc d'Albe, mais pas du tout la préméditation du massacre. Jérémy Foy, peut-être dire ce que voudrait arracher à Catherine de Médicis le duc d'Albe, par exemple l'interdiction du culte protestant, l'expulsion des ministres sous peine de mort, la publication du décret du Concile de Trente, l'obligation de la profession de foi catholique pour les serviteurs de l'État, par exemple, ce genre de...
Qui vont échouer complètement. Catherine de Médicis reste sur sa ligne. L'édit d'Amboise est maintenu. Il est maintenu jusqu'en 1567, la deuxième guerre de religion. Puis après, à nouveau, en 1570, il va y avoir un édit de paix. Tout ce que l'Espagne et Philippe II voudraient, à savoir le maintien de l'interdiction du culte protestant, rien ne se passe en France, ni même la réception des décrets du Concile de Trente. Catherine de Médicis reste sur sa ligne pacificatrice d'un point de vue espagnol. C'est un échec.
Ouais. Mais tout de même, Bayonne est une étape importante pour d'autres raisons aussi, pour les qualités que montre théoriquement le jeune Charles IX, en particulier les qualités cavaliers. Alors, on est toujours surpris, effectivement, parce que ce ne sont pas des références que nous avons dans nos siècles, en l'occurrence, mais il y a là, dans la façon dont se comporte Charles IX, qui est évidemment très observé, Jérémy Foy, il y a là, de quoi imaginer que c'est un bon roi, que c'est un roi qui va, parce qu'il a de la majesté, parce qu'il a de la grâce, qui va bien gouverner le royaume, Jérémy Foy ?
Oui, bien sûr, pour le roi, il y a des enjeux d'image qui sont décisifs. Il s'agit de se montrer un roi puissant, il s'agit de se montrer un roi chasseur. Alors le cheval, bien sûr, construire cet imaginaire de la puissance. Et puis toutes les fêtes qui vont dans chaque ville et beaucoup à Bayonne, et ça Mathieu Gellard pourra en dire un peu plus, toutes ces fêtes vont participer de la construction à la fois d'une image de la puissance et d'une image de la pacification et de la réconciliation. C'est ça qui est difficile dans ces fêtes, c'est de tenir les deux, le roi puissant et le roi pacificateur.
Mathieu Gellard.
Oui, donc c'est un Tour de France qui est jalonné, alors déjà d'entrée royale, hein, qui est une des quatre grandes cérémonies de la royauté française, hein, il y a des entrées dans les villes, et jalonné de grandes fêtes. Alors ça a été le cas au départ, hein, quand on est parti de la région parisienne. C'est le cas à Bar-le-Duc avec le baptême de l'héritier du couple ducal. C'est le cas encore à Bayonne avec de grandes festivités. Hein. Ça dure une quinzaine de jours, la rencontre franco-espagnole à Bayonne. Et c'est jalonné de fêtes dont, évidemment, les thèmes, l'organisation se veut extrêmement symbolique. Hein. Il y a tout un message derrière ces fêtes. Il s'agit de réjouissance, mais aussi de faire passer un message.
Hein. Et d'ailleurs... Marguerite de Valois, donc, dans ses Mémoires et Lettres, se souvient de ce long périple et de ses fêtes, justement.
Je laisse à en discourir à ceux qui, étant en âge plus mûr, comme vous, Brantôme, se faire souvenir des magnificences qui furent faites partout, même à Bar-le-Duc, au baptême de mon neveu le prince de Lorraine, à Lyon, à la venue de monsieur et de madame de Savoie, à Bayonne, à l'entrevue de la reine d'Espagne, ma sœur, et de la reine, ma mère, et du roi Charles, mon frère. Je m'assure que vous n'oublierez de représenter le festin superbe de la reine, ma mère, en Lille, avec le balai, et la forme de la salle qu'il semblait que la nature l'eût appropriée à cet effet. Ayant cerné dans le milieu de l'île un grand pré ou ovale de bois de haute futaie, où la reine, ma mère, disposa tout alentour de grandes niches, et dans chacune, une table ronde à 12 personnes. La table de leur majesté seulement s'élevait au bout de la salle sur un haut dais de 4 degrés de gazon. toutes ces tables servies par troupes de diverses bergères, habillées de toiles d'or et de satin, diversement selon les habits divers de toutes les provinces de France, lesquelles bergères, à la descente des magnifiques bateaux sur lesquels, venant de Bayonne à cette île, l'on fut toujours accompagné de la musique de plusieurs dieux marins, chantant et récitant des vers autour du bateau de leur majesté. C'était trouver chaque troupe en un pré à part, à deux côtés d'une grande allée de pelouse, dressée pour aller à la susdite salle. Chaque troupe dansait à la façon de son pays. Les poitevines avec la cornemuse, les provençales, la volte avec les cymbales, les bourguignonnes et champenoises avec le petit hautbois, le dessus de violon et tabourin de village. Les Bretonnes dansaient leurs passe-pieds et branle-guet, et ainsi toutes les autres provinces. Après le service desquels, le festin fini, l'on vit avec une grande troupe de satyres musiciens entrer ce grand rocher lumineux, mais plus éclairé des beautés, pierreries, des nymphes qui faisaient dessus leur entrée que des artificielles lumières. Lesquels, descendant, vinrent danser ce beau ballet duquel la fortune envieuse, ne pouvant supporter la gloire, fit orager une si grande pluie et tempête que la confusion de la retraite, qu'il allait faire la nuit par bateau, apporta le lendemain autant de bons contes pour rire que ce magnifique appareil de festin avait apporté de contentement.
Mémoires et lettres de Marguerite de Valois à propos du Grand Tour, le Grand Tour de Charles IX qui est au cœur de cette émission de la journée aujourd'hui, donc ce mercredi, dans une semaine consacrée au voyage politique que vous avez coordonné.
C'est on voit bien la magnificence, les fêtes ostentatoires, la richesse évidemment de ces fêtes et de ces loisirs qui sont là aussi comme contrepartie nécessaire d'un voyage difficile à réaliser, pénible et fatigant. Et puis aussi, on voit que les divertissements sont en rapport avec finalement la culture traditionnelle, les territoires visités. Et c'est l'occasion de découvrir pour ce jeune roi Charles IX à la fois les traditions de chaque région, mais aussi le patrimoine. Je crois qu'il visite les arènes de Nîmes, les courses de taureaux. C'est la découverte du territoire et aussi un moyen d'apaiser un petit peu ce voyage. Ce périple politique.
Oui, cette double dimension que le roi voit son royaume et que le royaume voit son roi. Ça, tout à fait. Donc, il y a la dimension dramatique du contexte et puis il y a une dimension de prise de possession d'un territoire pour un roi qui vient d'être déclaré majeur. On est déclaré majeur très jeune quand on est roi de France. Mais effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement important. Ce que dit Ronsard dans un vers, lorsqu'un prince a pleine connaissance de ses sujets, il a plus de puissance.
Et on voit bien aussi qu'il faut des entrepreneurs de spectacle, Jérémy Foy, pour aider le roi à se faire connaître de ses sujets. On sait depuis les travaux sur Léonard de Vinci, François Ier, la reconstitution l'année dernière par Pascal Briouat, de la reconstitution de la bataille de Marignan du côté d'Amboise et de Romorantin. On sait très bien que les poètes, les architectes, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, comme Ronsard en l'occurrence, organisent ces grandes fêtes, Jérémy Foy.
Oui, tout à fait. Ce sont des humanistes, des poètes. À Troyes, vous avez cité Jean Passerat, qui est le grand organisateur. On sait qu'à Troyes, c'est toute une légion de menuisiers, de peintres qui travaillent à la construction de ces décors. Alors, ces décors, c'est souvent des décors éphémères, beaucoup d'arcs de triomphe, donc avec une référence à l'Antiquité, les arcs de triomphe en bois.
Avec des Hercules, parfois, j'imagine.
Avec des Hercules, avec des représentations symboliques. On voit très souvent, par exemple, Charles IX terrassant la guerre civile. Donc vous voyez une symbolique et puis parfois des symboliques plus complexes à déchiffrer, une croix ancrée, une mouche à miel, un œil qui sont censés symboliser la vigilance, l'équité. En tout cas, toute une culture classique qui va s'exprimer dans ces entrées. Et puis surtout le thème de la pacification qui revient beaucoup dans ces spectacles. À Bayonne, par exemple, les nobles protestants échangent des gravures avec les nobles catholiques, des gravures représentant l'amour et l'amitié.
D'ailleurs, justement,
on met en scène la pacification et puis on met en scène les vertus du prince dans ces arcs de triomphe Ça marche pas toujours. On sait, par exemple, que à Nîmes, par exemple, les Nîmois qui sont protestants pour beaucoup peignent l'Arc de Triomphe en jaune.
Oui, et ça ne plaît pas. Alors, parce que ce sont pas les couleurs du roi.
Ouais, voilà, ils disent que c'est du doré, mais évidemment, c'est un incident diplomatique parce que jaune, c'est la couleur de la trahison. Alors, c'est un scandale. On se dit, tiens, de la part des protestants, ils essaient d'humilier le roi, ils essaient de se rattraper. On sait qu'on a toute une série de catastrophes comme ça lors du Tour de France parce que on peut pas tout prévoir. À Carcassonne, en janvier 1565, il a beaucoup neigé. Les arcs de triomphe en bois s'effondrent sous le poids de la neige. Le roi ne peut pas faire son entrée. Il est coincé sous les remparts de Carcassonne. C'est la catastrophe.
Et d'ailleurs, en tant que source, alors il y a des lettres, il y a des rapports a posteriori, etc. Alors, au niveau des représentations, je sais pas, des peintures plus picturales, est-ce qu'on a justement des... enfin, voilà, comme source, est-ce qu'il y a eu de nombreuses gravures, peintures qui ont représenté ce fameux grand périple de Charles IX?
Sur les, Mathieu Gélard. Sur les fêtes, les festivités, oui. Les balais, il y a moins de choses que sur les entrées. Sur les entrées, on a les livrets produits pour l'entrée, qui en expliquent parfois aussi la symbolique, qui sont imprimés dans les différentes villes traversées par le roi. Et donc là, on a une source pour connaître de manière extrêmement précise les entrées royales du Grand Tour. C'est moins le cas, de manière iconographique en particulier, pour les balais. On a encore un peu du mal à se représenter les choses, que ce soit à Bar-le-Duc.
Parce que la cour n'avait pas emmené, par exemple, ses peintres ou dans ce grand voyage. Elle amène des musiciens, bon, on sait. Mais est-ce qu'il y avait des peintres, par exemple, qui avaient pour vocation de...
Non, il n'y a pas de production d'une mémoire iconographique du Grand Tour.
Alors, vous évoquiez à l'instant, Jérémy Foy, la difficulté de l'arrivée du roi dans des villes qui sont supposées huguenotes. Eh bien, l'exemple, c'est septembre 1565. On est tout près de La Rochelle, ville véritablement huguenote, on le sait. Et on se rend du côté de Marennes, mais aussi un peu plus loin, à Brouage.
Et le mercredi cinquième jour du 10 septembre 1565, le roi partit de Marennes pour aller dîner et voir un beau port de mer, auquel lieu l'on a fait une nouvelle ville qui s'appelle le Brouage, auquel lieu s'amassèrent tous les habitants, tant du dit lieu que des villages circonvoisins, en fort belle ordonnance, et tirèrent d'artillerie les vaisseaux qui étaient dedans le dit port, qui, en ne prenant pas garde, tuèrent deux hommes et en blessèrent quelques autres. Et puis après dîner, les mariniers donnèrent plaisir au roi d'un combat des vaisseaux contre vaisseaux sur la mer, que, en ce faisant, brûlèrent un de leurs navires, et après le roi s'en retourna coucher à Marennes. Pour ce jour, deux lieux. Et le jeudi sixième jour du 10 mois de septembre, tout le jour au dit lieu, pendant lequel s'assembla bien 800 ou 900 personnes à l'église du dit lieu pour se confesser et faire leur Pâque, laquelle chose... Ils ne pouvaient faire lorsque le roi était absent, à cause que les principaux du lieu étaient de la religion prétendue réformée, que nous appelons huguenots. Plus, ce même jour, fut baptisé pareillement grand nombre d'enfants, desquels il y en avait de si grands qu'ils répondaient aux prêtres en les baptisant. Le roi assista à la plus grande part et en fit nommer de son nom, aussi la reine et madame.
Jérémy Foy, on voit bien qu'il n'est pas simple pour le roi d'arriver dans des terres qui sont plutôt protestantes. Il n'a jamais craint de se faire assassiner, d'avoir des incidents armés, pourrait-on dire, parce qu'il y avait eu effectivement les décisions d'Amboise. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'a pas craint d'être attaqué pendant ce grand tour ?
C'était une crainte qu'il pouvait effectivement avoir. Alors bon, il n'arrive quand même pas tout seul, on l'a dit, mais il est un peu entouré.
Oui, c'est vrai qu'avec 8 personnes...
Oui, voilà, il a quand même un certain nombre de gardes du corps. C'est pas une hypothèse impossible. Alors l'assassinat, peut-être Charles IX, ça serait un peu anticipé, mais en tout cas, ce qu'il y a à craindre, c'est l'enlèvement. On sait qu'auparavant, lors du tumulte d'Amboise en 1560, et puis un petit peu après, en 1567, à Meaux, il va y avoir des tentatives d'enlèvement de Charles IX. Vous l'avez dit, oui, quand il arrive en territoire protestant, notamment, ici, on l'a vu à Marennes ou à La Rochelle, l'accueil est hostile, l'accueil est froid, puisque les protestants sont peu satisfaits de l'édit de pacification. Et donc, il peut craindre ceci, d'autant plus qu'on le voit dans le texte qui vient d'être lu, Charles IX insiste beaucoup sur son catholicisme. Là, on le voit, il est dans une ville dans laquelle la messe a cessé, dans laquelle les catholiques ont été chassés, ou en tout cas se font très discrets. Et lui, il insiste énormément pour célébrer la messe. Il fait baptiser les enfants. Ici, quelque chose qui, d'un point de vue théologique, est un petit peu louche. Hein. Il fait baptiser les enfants âgés, qui ont peut-être déjà été baptisés protestants. Donc vous voyez qu'il y a quand même ici une volonté catholique très forte. On sait qu'à Angers, par exemple, Charles IX suit la procession, fait une procession sous un dé, c'est-à-dire qu'il se compare au Saint-Sacrement. Donc, la dimension catholique de Charles IX est réaffirmée dans le Tour de France. Vous avez raison, quand il croise des villes protestantes, l'accueil n'est pas chaleureux.
Mathieu Gélard.
Oui, donc ça, c'est le climat de suspicion hein, de ce moment des guerres de religion. Hein. Il y a cette fameuse rumeur qui naît après Bayonne chez les protestants, comme quoi on aurait prémédité leur extermination hein, dans les années 1560. C'est pas quelque chose de postérieur à la Saint-Barthélemy. Hein. Dans les années 1560, après, ça se dit. Une des guerres de religion suivantes commence sur une espèce d'inquiétude subie de la part des protestants de se faire enlever. Il y a des tentatives, Jérémy Fauval l'a dit, hein, pour enlever le roi, qui échoue toutes, mais voilà, il y a un climat d'extrême tension, et on a entendu la lettre d'un ambassadeur espagnol à son maître tout à l'heure, qui justement mettait en garde des possibilités de difficultés militaires en remontant hein, dans les territoires protestants.
Et puis, il y a tout de même des surprises dans ce tour, des surprises bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Quand on regarde le Tour de France, ça ressemble à un Tour de France en vélo aujourd'hui, donc on le voit passer par les Alpes, par les Pyrénées, on les voit remonter le long de la côte atlantique, et ils vont pas à Rennes, Jérémy Fauval. Pourtant, il y a un grand parlement, et on se dit, mais pourquoi ne vont-ils pas à Rennes? Qu'est-ce qui se passe pour éviter ainsi la grande ville de Bretagne?
Alors là, probablement, le hasard ou des raisons de logistique. Il n'y a pas de raison fondamentale. Effectivement, il y a un parlement à Rennes qui est plutôt obéissant, puisque c'est un parlement qui a enregistré très volontairement l'édit de pacification d'Amboise. C'est une ville où il y a un protestantisme relativement faible. Ce n'est pas une ville qui devait être évitée, donc j'aurais tendance à dire le hasard.
Oui, Mathieu Gélin.
Oui, c'est vrai qu'il y a des éléments qui perturbent hein, les choses. Par exemple, à Lyon, on part en toute précipitation parce qu'il y a une épidémie de peste, hein, donc on n'y reste pas aussi longtemps que prévu. Et puis pour le nord-ouest du royaume, alors c'est pas vrai pour la Bretagne, mais c'est vrai pour la Normandie, hein, qui n'est pas visitée. En fait, on en vient en 1563, on est allé faire la guerre aux Anglais pour reprendre le Havre. Donc il y a déjà eu une présence de la cour dans une province qui, justement, hein, a un protestantisme relativement bien implanté. Il y a déjà eu une présence de la cour en Normandie.
Donc on peut l'éviter en 1564-1566.
Voilà, c'est pas totalement un Tour de France. Il y a un petit accro au nord-ouest.
Qu'est-ce qui se passe une fois la cour revenue chez elle, d'une certaine façon? Est-ce que on a la trace de la satisfaction de Catherine de Médicis ou du roi soi-même d'avoir réussi cette rencontre avec ses sujets, Jérémy Fauval?
On n'a pas de témoignage direct sur ça. Effectivement, c'est une question qui est intéressante parce que c'est un passage éphémère. Est-ce que Catherine de Médicis, Charles IX, pouvait s'estimer satisfait de ce Tour de France? Est-ce que ce Tour de France est une réussite? C'est une vraie question. Une fois que la cour est partie, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la paix dure quand même jusqu'en 1567. Entre 1563 et 1567, 4 ans, c'est pas rien. Aujourd'hui, si on compare dans des situations de guerre civile, si on obtenait 4 ans de paix, on s'estimerait heureux. On a 4 ans. Catherine de Médicis estime, et le Tour de France fait partie de cette réussite, estime avoir réussi à faire tenir la paix pendant 4 ans.
Mathieu Gélard.
Alors, c'est vrai que c'est une forme de succès, ou en tout cas, peut-être que le fait qu'elle recommence à voyager dans des moments de crise tendrait à prouver qu'elle estime que c'est un outil politique efficace, hein, puisque, ce que je disais tout à l'heure, il y a d'autres voyages, hein, il y a une multitude de voyages de la part de Catherine de Médicis, sous Charles IX accompagné par le roi, sous Henri III seul. Donc, bon, voilà, elle en est visiblement satisfaite comme outil politique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que localement, à peine la cour partie, à peine le roi partie, parfois, hein, les tensions reprennent et le souvenir du passage et de la pacification s'efface parfois assez rapidement.
Et c'est un des derniers signes, justement, de cette cour nomade dont parlait tout à l'heure Mathieu Gélard. Certes, des souverains plus tard, surtout après Louis XIII, et encore une fois, Louis XIV tenteront de faire ce genre de voyage, mais progressivement, la cour va se restreindre au siège parisien, pourrait-on dire, Jérémy Foy?
Oui, tout à fait. Là, on est déjà au XVIe siècle dans un processus de sédentarisation. Si on, François Ier, par exemple, en 1515 et 1547, c'est à peu près 800 lieux de séjour différents.
Vous voyez, 800
avec 800, ouais. Donc c'est énorme. François Ier passe sa vie à cheval. Catherine de Médicis, oui, à cheval, sur les routes du royaume. Catherine de Médicis, c'est plutôt 300 lieux de séjour. Donc on est déjà au XVIe siècle dans un phénomène de sédentarisation. C'est pour ça aussi que le Tour de France est si exceptionnel. C'est que déjà, on commence à voir émerger Paris comme capitale. Paris et puis les châteaux autour de Paris, Saint-Germain, Fontainebleau. Alors bien sûr, le XVIIe siècle avec Louis XIII et puis surtout Louis XIV, Versailles, ça sera l'apogée de cette sédentarisation.
Et avec cette idée que le peuple doit venir au roi, et ce n'est pas le roi qui doit venir au peuple.
Mathieu Gélard.
Ça, c'est fondamental comme révolution.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, donc c'est aussi une égalité de la France, puisque ce n'est pas une fixité. Hein. Il y a une région résidentielle qui se dessine. Alors, elle a été ligérienne dans le premier XVIe siècle. Elle devient vraiment francilienne dans le second XVIe siècle. Mais bon, le roi, la cour reste nomade, mais dans un petit périmètre. Et c'est dans ce petit périmètre que le reste des provinces doit venir. Ouais.
Merci à vous deux, merci à nos confrères de Radio France Aix qui vous ont accueillis dans leur studio. Jérémy Foy, Mathieu Gélard, vous êtes auteur de Une reine épistolaire, votre thèse, donc Lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis, paru il y a 2 ans chez Classique Garnier avec une préface de Denis Crouzet. Puis il faut citer, si on le trouve en bibliothèque, le livre d'origine, pourrait-on dire, qui a permis de mieux connaître dans les années 80 le Tour de France royal. Ça, il est signé de 3 auteurs, Jean Boutier, Alain Deveux et Daniel Nordman, Le voyage de Charles IX en France. C'était chez Aubier.
Et Jérémy Foy, votre ouvrage va être publié aussi sur les commissaires?
Oui, mon ouvrage a été publié, effectivement, il s'appelle Le tombeau de la paix, c'est sur les commissaires du roi aux presses universitaires de Limoges.
Presse universitaire de Limoges, merci à tous les deux, merci à Nathalie Canouic qui a lu les textes pour vous, ça n'était pas les textes les plus simples de la littérature française, merci encore et aussi à Francesca Fossati, Aurélie Marseille comme d'habitude qui ont préparé cette émission, Alexandre Dang était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation et demain nous partirons pour la République, la Révolution française. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez surtout l'y écouter, cette émission, ainsi que toutes les autres, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion, mais par ailleurs, laissez vos commentaires sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, si vous pratiquez les réseaux sociaux, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse sur Twitter de la Fabrique de l'Histoire, c'est Fabrique FC.